je laisse la parole pour le dernier volet de cette présentation, on va dire technique et concrète des, de la restauration, à Violaine Blaise, qui est une élève de l'Institut national du patrimoine, spécialité de restauration textile, et qui a restauré pour nous une marionnette japonaise pendant l'année scolaire qui vient de s'écouler. Et son travail nous a posé, d'abord nous a amené à repenser l'identité de cette marionnette, elle va sans doute nous expliquer pourquoi, et ensuite à vraiment une vraie problématique de restauration. Simone Blasi a tout à l'heure évoqué la question de qu'est-ce qu'on garde de l'histoire de l'objet, et c'est vraiment devant ce type de problématique qu'on est.
Donc moi je vais vous parler très précisément de la restauration d'une marionnette qui est conservée ici à la BNF, qui était issue du fonds Guillaume de Say. C'est une marionnette japonaise. J'ai eu la chance de passer une année entière dessus en fait l'année dernière dans le cadre de la fin de mes études à l'Institut National du Patrimoine. Donc je suis restauratrice de textile. Et comme vous voyez, c'est une marionnette avec des matériaux très hétéroclites. Donc j'ai travaillé sur plusieurs types de matériaux avec la collaboration ou bien en tout cas l'aide de restaurateurs de différentes techniques. Donc par rapport à sa technique de fabrication et à la qualité des matériaux, j'ai pu identifier comme une marionnette de la fin de l'époque Edo, donc à peu près début 19e siècle, fin 18e, début 19e. Elle mesure 65 cm de haut à peu près, ce que vous ne voyez pas sur l'image. Donc il s'agit, comme beaucoup de marionnettes japonaises, d'une marionnette qui se manipule à trois manipulateurs, mais qui n'est pas de type bunraku. On connaît assez bien le bunraku, qui est le théâtre urbain d'Osaka, qui s'est développé beaucoup en ville, mais en prenant beaucoup d'influence à la campagne. Ici, en fait, je pense qu'un seul manipulateur était chargé de la tête, un faisait les deux bras à la fois et un autre les pieds. Et elle devait être jouée derrière des cloisons, donc un petit peu en hauteur. Donc ça, c'est une photo de la marionnette avec le costume démonté, puisque au cours de la restauration, j'ai donc démonté le costume. Donc comme ça, vous voyez un petit peu la structure. Avec, il n'y a pas de structure. En fait, tout est souple. Il n'y a rien de solide. Avec les deux tiges de préhension pour les bras, les deux pour les pieds. L'instrument de contrôle de la tête qui est caché dans le torse, qu'on voit sur la petite photo en haut. Et donc le costume est cousu par-dessus avec des rembourrages à la fin pour donner corps à la marionnette. Donc en fait, elle est articulée au niveau des sourcils et des yeux, et elle peut hocher la tête. Enfin, je pense qu'elle pouvait hocher la tête. Là, les photos sont à l'envers. Vous avez une manche au cours du démontage. C'était une photo que j'avais sélectionnée pour vous montrer que c'était des matériaux de récupération. Donc en fait, les textiles, c'est un type assez particulier au Japon qu'on appelle des kinran. C'est des tissus façonnés dont les motifs sont faits avec des lamelles de papier doré et non pas du fil textile. Ici, le papier n'est pas doré mais étamé parce que c'est un objet rural de qualité un petit peu plus médiocre. Avec la manche, en fait, c'est des morceaux de tissu qui ont été assemblés les uns avec les autres. Et à l'intérieur, c'est rembourré avec du papier de récupération aussi, qui était donc probablement des documents de transaction. Un aperçu des dégradations de l'objet. En fait, il y avait plusieurs causes de dégradation sur cette marionnette. Pas forcément l'usage en premier. Je pense en grande majorité les conditions de conservation qui avaient été difficiles. On imagine déjà sa vie en tant qu'objet de spectacle au Japon, son voyage jusqu'ici, puis ensuite elle a dû transiter par des, je sais pas combien d'étals de magasins ou de brocanteurs jusqu'à arriver dans une collection, puis à la BNF. Donc ici on voit surtout les dégâts de la lumière qui a complètement brûlé les fils de soie, ce qui fait qu'on avait un tissu très effiloché. Les lamelles de papier qui forment le motif qu'on voit sur la photo macro étaient complètement corrodées. Le papier se déchire, se casse. Ensuite, il y avait aussi des facteurs humains qui étaient les reprises, qui ne sont pas forcément des reprises de l'époque où la marionnette était jouée, parce que moi je pense pas concevable de faire jouer une marionnette au Japon avec des reprises pareilles. Je pense que c'était plutôt des réparations pour pouvoir la garder, ensuite la vendre. au cours de sa vie peut-être plutôt européenne, donc les reprises qui tiraient beaucoup sur les tissus, et à l'intérieur, donc vous avez encore une donc ça c'est le bas du pantalon avant restauration, et à côté, une fois démonté, le papier à l'intérieur avait été complètement collé pour réparation au tissu, ce qui fait qu'il était englué de colle et de poussière, et il s'était déchiré en même temps que le tissu. Et puis la couleur que vous voyez en fait n'est pas du tout d'origine, c'est un repeint très récent fait à la gouache et qui cache en fait une polychromie toujours présente en dessous mais qui est très sale, donc je pense qu'il l'avait recouverte parce que c'était trop sale. À ce stade-là, en fait, le repeint peut aussi être considéré, bon, c'est une trace de la vie de l'objet, mais dans certains cas, ça peut être considéré comme une dégradation, puisqu'ici, en fait, on ne comprend plus le rôle de quel personnage il s'agit, et les têtes dans les marionnettes japonaises, c'est la seule partie qui est parfois signée par un artiste. C'est une partie très noble de la marionnette, donc c'était considéré comme un dommage. La photo que vous voyez à côté, en fait, c'est une photo macro. On voit le repeint rose et en dessous, si vous regardez, c'est la couche originale qui était un blanc crème, donc à la coquille d'huître avec des rehauts très soutenus de carmin, de vermillon et noir. Donc, la restauration qui a eu lieu, elle avait comme objectif évident la conservation de la matière, puisque telle que vous l'avez vue, en fait, on pouvait à peine la sortir de sa boîte. Dès qu'on touchait la marionnette, il y avait des morceaux qui tombaient. Donc la restauration était considérée comme nécessaire, mais vraiment, ne serait-ce que pour la matérialité, pouvoir conserver l'objet. Et ensuite, ça se double évidemment de toute l'étude de l'objet, de toute une réflexion, ce que Véronique Minot appelait l'aspect un peu intellectuel de la conservation de ces marionnettes, c'était de pouvoir offrir à l'issue de la restauration un discours autour de l'objet, dire déjà d'où elle venait, parce qu'on n'avait pas d'informations sur elle. En fait, c'est par mes recherches qu'on a pu déterminer l'époque, la provenance, le type de manipulation, dans quel cadre elle a été jouée, comment est-ce qu'on la faisait jouer, comment on les fabriquait surtout, parce que le démontage c'était une chance inouïe pour comprendre la fabrication des marionnettes rurales. Donc là vous avez des images d'une manche démontée, mise à plat, donc avant et après. Alors là l'intervention qui a eu lieu c'était le dépoussiérage et ensuite la mise à plat. Donc on dépoussière avec un micro-aspirateur et un pinceau fin, et on met à plat avec des membranes de Gore-Tex. On humidifie sans mouiller, en fait. Ensuite, il fallait trouver une méthode de doublage. Donc là, je parle du costume. Après, il y a eu des interventions sur tout ce qui concernait aussi la structure. Le doublage consiste à consolider les tissus ou les papiers extrêmement dégradés en mettant derrière un support qui est en bon état. Donc je devais, vous avez en fait le devant du pantalon avant et après doublage. Je devais trouver une méthode de doublage qui était bien entendu réversible, comme on a expliqué précédemment, compatible avec les matériaux, qui dure dans le temps au maximum, donc utiliser des adhésifs validés d'un point de vue conservation, c'est-à-dire sans acidité, etc. Et puis surtout trouver une mise en œuvre, puisque j'avais en fait tous les tissus étaient restés solidaires, j'ai démonté qu'une partie des coutures. Parce que je voulais conserver des coutures d'origine au maximum, donc j'ai démonté uniquement ce qui me permettait d'accéder au revers, et je me retrouvais avec des tissus et des papiers qui étaient cousus ensemble. Je ne pouvais pas mouiller les uns parce que les autres ne supporteraient pas d'être mouillés, donc il fallait que je trouve une méthode, une mise en œuvre compatible. Donc là, ça a été des semaines, voire des mois de recherche en collaboration avec le laboratoire, le centre de recherche sur la conservation des documents graphiques. Et je suis allée voir du côté des méthodes de consolidation de doublage japonaise. J'ai eu l'occasion de partir au Japon l'année précédente. Donc j'ai repris une méthode que j'avais vue dans un atelier de restauration de papier, qui était une méthode d'encollage non pas au pinceau, mais par micro-point. Donc j'ai adapté la méthode après main et main tâtonnement. Et donc on a réalisé des tests en laboratoire pour s'assurer que la méthode que j'employais était adaptée au textile, qu'elle était réversible, que mes doublages se comportaient bien aux variations thermohygrométriques, que j'avais un gain de souplesse par rapport à un doublage classique. Enfin bon, voilà. Donc au cours de à l'issue de l'étude, j'ai pu doubler l'intégralité des textiles, soit de papier, comme c'est le cas ici, donc c'est du papier japonais que j'ai teinté, soit de taffetas de soie pour certains objets, ça dépendait des parties du costume. Certains textiles qui étaient extrêmement friables avaient besoin d'une couverture, donc en fait, là, les petits rubans qui sont aux chevilles, ils n'ont pas été doublés, ils ont été emballés dans une mousseline de soie, teinte dans la couleur la plus proche possible du tissu d'origine pour que ce soit transparent. Donc c'est toujours de la conservation, on ne crée rien de nouveau, on ne reconstitue pas, mais on essaie de maintenir en place. Et les papiers de rembourrage, même s'ils sont invisibles, ont un rôle structurel très important, donc ils ont été doublés par la même méthode avec Lucille de Seine qui vous a fait l'exposé précédent, avec un papier japonais, donc ce que vous voyez en fait avant et après doublage, en bas après doublage, le papier est transparent, donc on voit à travers, bon, c'est quelque chose qu'invisible, hein, c'est de nouveau dans le costume maintenant. Au niveau de la structure, on a aussi procédé à des interventions de consolidation, donc j'étais pas toute seule, j'ai fait ça avec des restaurateurs de mobilier. L'objectif c'était, je pense que vous l'aurez compris, c'était pas de remettre l'objet en fonction, de lui faire récupérer ses mécanismes d'origine, parce que la dégradation de la matière était tellement importante que la manipuler maintenant c'est suicidaire en fait. Donc c'était juste apporter les éléments nécessaires pour qu'elle tienne debout en fait, que, parce que là la tête était déboîtée, vous avez une photo du coup avant intervention, la tête, la tige était cassée, coincée en travers de la gorge, donc la tête tombait sur le cou tombait à côté du corps. Enfin, bon. On a remplacé certaines parties pour que ça tienne debout, les yeux ont été remis en place, certaines tiges ont été consolidées. Ensuite, une fois la consolidation de tous les matériaux fait indépendamment, j'ai remonté le costume, enfin donc les coutures et les collages que j'avais dû défaire en dédocumentant ont été refaits sur les emplacements d'origine avec une certaine déontologie, c'est-à-dire utiliser des fils très ressemblants mais distincts des fils d'origine parce que je ne confonds pas mon intervention avec celle du fabricant de marionnettes qui donc, a fabriqué la marionnette il y a 200 ans. Les rembourrages d'origine ont été réintégrés aussi, alors ils sont emballés pour pas qu'ils continuent de perdre de poussière qui dégradait les textiles. Et donc le travail de restauration en soi bon, voilà, a permis de récupérer déjà ben, un aspect satisfaisant pour cette marionnette. Elle est lisible, elle est présentable, elle est légèrement plus manipulable qu'avant. Bon, on peut déjà la sortir de sa boîte, la retourner, la consulter sans avoir des bouts qui nous restent entre les mains. Mais en fait, ça ne suffit pas parce que les matériaux, la dégradation des matériaux, donc des fibres, des papiers, des textiles ou du métal, c'est quelque chose de complètement irréversible. Donc à moins de la couler dans de la résine, ça restera toujours, on ne peut plus la manipuler, c'est une marionnette qui n'est plus manipulable. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Donc le travail s'accompagne de préconisations de conservation avec une notice expliquant comment est-ce qu'on peut la manipuler. Donc là en fait elle est prise entre deux, elle a des matelas souples qui sont des matelas très légers en billes de polystyrène extrudé qui sont pris dans un film de polyéthylène qui nous permet de la retourner doucement. Et j'ai terminé. Voilà.